l'avez lu. Maintenant, entendez-le. Avec Antoine Joubert et Germain Goyer. Le guide de l'auto. Cube Radio.
Bonjour tout le monde, bienvenue au Guide de l'auto, édition du 14 novembre 2020. Germain, bonjour.
Bonjour Antoine, bon retour.
T'étais dans une petite vacance cette semaine.
Ah, des petites vacances, hein, on a droit à ça à l'occasion. Donc voilà, je me suis promené au Québec, hein, ça a l'air que c'est ça qu'on peut faire.
Bon,
je suis de retour.
T'es de retour, puis il y a bien des gens qui t'ont manqué dans notre live Facebook du mercredi
après-midi. Ben oui, on va reprendre.
T'as même pas pu vite découvrir notre nouveau décor extraordinaire.
Ben non, j'ai vu ça comme les gens qui t'ont écouté. Là, j'ai découvert ça en même temps qu'eux. Très hâte de retrouver la grosse brune la semaine prochaine.
Au chaud,
voilà. Et bien éclairé en plus.
Et je l'ai nettoyé.
Ouais, j'ai tout vu ça sur Instagram. C'est fantastique. J'étais loin, mais pas très loin de mon téléphone.
Bon, parfait. Allez, écoute, on commence par parler d'un véhicule commercial en version électrique, le Ford e-Transit, donc une version électrique du Ford Transit pleine grandeur.
Oui, exactement. Donc, ça avait été annoncé il y a quelques mois. La même semaine, on se rappelle que GM avait ajouté un nouveau moteur V8 à sa gamme pour son Chevrolet Express, son GMC Savannah. Et la même semaine, Ford avait annoncé l'arrivée éventuelle d'un Ford Transit électrique. Donc, deux directions totalement opposées.
Ouais.
Et cette semaine, on a eu plus de détails. On nous l'a dévoilé. Esthétiquement, c'est le même véhicule, là. On se le cachera pas. Et par contre, pour ce qui est de l'autonomie,
Et j'ose croire que ça va être le même véhicule pour les 20 prochaines années. C'est du moins ce à quoi on peut s'attendre si on se fie à ce que Ford a fait avec le E-Series et ce que GM fait toujours avec le GMC Savannah.
Mais ça marche!
C'est ça, exactement.
Ça marche.
Donc, les gens n'achètent pas ça pour le look, là.
Non, on est d'accord. Donc, batterie de 67 kWh, autonomie de 203 km. C'est pas énorme, mais on le présente comme étant un fourgon pour faire des déplacements urbains. Donc, c'est sûr que si tu fais de la livraison, là, dans
puis
les
on
centres-villes.
On s'entend que l'autonomie va varier en fonction de ce que tu mets dans la boîte. Là.
Oui, totalement. Donc,
ça demeure une autonomie quand même supérieure au véhicule que je conduis aujourd'hui.
Oui.
Qui est une Mini Cooper électrique
qui
est super le fun, honnêtement. Là, je m'étends pas sur le sujet, là, mais c'est vraiment une petite voiture amusante à mort, mais 177 km d'autonomie.
En 2015, ça aurait été correct. Là.
C'est
2020,
puis au prix où on en demande,
plus,
je frise des 50 000 piastres avec ça. Donc, moins les crédits gouvernementaux.
À part le véhicule de presse, j'en ai pas vu sur la route en ce qui me concerne.
Une seule, moi.
Okay.
Une seule, moi. Fait que c'est quand même... C'est une voiture très, très, très nichée. Ouais. Revenons à nos moutons e-Transit.
Oui, exactement. Donc, c'est 266 chevaux, 317 livres-pieds de couple. Hein. On est habitué au moteur électrique. Là, du couple instantané. La date d'arrivée, je t'avoue que le détail m'échappe. Modèle 2021. Donc, probablement... Là,
OK, donc en cours d'année, on va
en
l'avoir.
Cours d'année, et connaissant peut-être les mauvaises habitudes que Ford a prises dans les derniers mois, ça va être à la fin
2021.
On a eu le prix, hein, quand même, c'est un détail important. 58 000 $ pour la version de base. Donc, c'est pas donné. Mais,
et il n'y a pas de crédit éligible pour ça, évidemment. Là.
Non, je pense pas que ça réponde à aucun critère.
Parce que ça prend un véhicule
là.
À 7 passagers.
Voilà. Donc, on n'est pas là pour le moment. Donc,
Hyundai Tucson, on a eu un peu plus de détails sur la nouvelle génération qui a un look assez champ gauche, merci.
Oui.
Puis, on connaît maintenant les mécaniques.
Oui, on avait vu les photos il y a quelques mois aussi, mais
je me demande combien ça va coûter remplacer une lumière sur ce véhicule-là s'il y a un accident.
Ah, je sais pas, mais moi, je te confirme que j'aurais le goût de les remplacer tout court, là.
Ouais,
mais
c'est ça,
c'est une autre histoire.
Les bons vieux, c'est le beam, ça fait.
C'est ça. On a vraiment pris là, une tangente que je ne comprends pas chez Hyundai avec un look là, à tout casser. C'est un peu trop. Vraiment, c'est un peu trop. Donc, tout ça pour dire moteur de base, hein, 4 cylindres 2.5. C'est un moteur qu'on retrouve là, de plus en plus, finalement.
Ce qui est une bonne nouvelle, parce qu'on ne parle pas d'une mécanique turbo-compressée.
Non.
On a lâché ça.
Parlons pas trop vite, parce qu'il y a une version hybride qui, elle, va avoir le 4 cylindres 1.6 turbo aussi. Donc,
Je veux dire, comme moteur de base, d'avoir une mécanique d'un peu plus grosse cylindrée.
Un peu plus robuste. Là.
Parce que moi, je suis vendu aux plus grosses cylindrées qui ne consomment pas plus, en fait, qui consomment même souvent moins.
Ouais.
Tu sais, j'avais... Je fais, j'amène encore le parallèle entre les cotes de consommation annoncées d'un RAV4 à moteur 2,5 ouais. litres qui sont plus basses que celles du Ford Escape avec le moteur 3 cylindres EcoBoost cylindre, turbo.
Ouais, c'est ça, voilà.
Fait que, ça vous donne une idée. Donc, Hyundai qui avait un petit moteur 2 litres qui était un peu poussif dans le passé et un moteur 1,6 turbo, ben là, le moteur de base, c'est un 2,5. Pour moi, c'est une super bonne nouvelle.
Oui, et bon, fait que comme je glissais un mot, il va y avoir une version hybride, moteur turbo 1,6, mais aussi une version hybride rechargeable qui devrait arriver en deuxième moitié d'année 2021. Donc, ça devrait être franchement intéressant parce qu'on sait que y a le RAV4 Prime qui est là, il y a l'Escape qui va peut-être arriver un jour. L'Escape
puis l'Outlander qui est légèrement renouvelé cette année.
Qui continue, c'est ça, lui, d'être là. On nous parle d'une autonomie de 45 km. C'est un peu moins que les joueurs actuels et les joueurs à venir, mais bon, je pense qu'il va avoir un marché intéressant pour ça.
Est-ce qu'on sait si le Tucson hybride rechargeable sera offert avec le rouage intégral?
C'est une bonne question. On est encore là au début de...
Donc, il n'y a pas beaucoup de données.
Il n'y a pas beaucoup de données. On nous a parlé quand même d'une version d'un Tucson N-Line. Hein? C'est une nouvelle sous-marque, quasiment une nouvelle sous-marque de commerce, de véhicules à vocation sportive. Donc, j'ai hâte de voir
En fait, c'est pas compliqué, là. Tu sais, pensez à S-Line chez Audi.
Ah, tout à fait.
Pensez à M chez BMW.
Mais concrètement, ça va ressembler à quoi avec le Tucson? Il est encore trop tôt pour en parler. Mais on arrive vraiment avec une gamme très, très, très étendue.
Je sais pas si Honda va répliquer avec un CR-V de ses pairs.
Je ne sais pas. Ce serait...
On commence par répliquer avec un nouveau CR-V. Là. Ça aiderait.
Oui. Bon,
c'est une autre histoire.
Un nouveau CR-V et une nouvelle Civic.
Parlant de Honda, moi qui ai maître des transitions.
T'es rendu bon. Pour vrai, t'es rendu bon.
Surprends.
Et on attendait la Civic de nouvelle génération au printemps prochain. Je pense que les gens de chez Honda ont compris que on n'était pas capable d'attendre si longtemps encore. Fait que ce qu'on nous a dit, c'est qu'on allait nous dévoiler à la fin du mois de novembre le prototype. Hein, on a fait ça avec le MDX, nous dévoiler un prototype.
Qui va être un véhicule très près de la production.
C'est essentiellement le même truc. Donc, 11e génération de la compacte japonaise. Et ce qui a retenu l'attention, en tout cas la mienne, c'est que ça va être dévoilé sur Twitch. On sait qu'on est dans un...
Que c'est ça, Twitch? Moi, honnêtement, je connais pas ça.
Voilà. Donc, je pense qu'il y a quelques cheveux gris qui te sont poussés pendant cette phrase. Mais donc, on est dans un monde où tous les véhicules sont dévoilés de manière virtuelle. Il n'y a plus rien de concret qui existe.
Ouais.
Et Twitch, en fait, c'est une plateforme de streaming en ligne et qui a un public très, très jeune. Là. Plus de la moitié des utilisateurs ont entre 15 et 30 ans. Donc, et la Civic, traditionnellement, c'est toujours adressé à un public assez jeune.
Ben, je me permets un peu de te corriger là-dessus parce que moi, je trouve que la Civic a suivi sa clientèle du début.
Ben, peut-être qu'on veut la renouveler.
C'est-à-dire que... Je te donne un exemple. Ma mère s'est acheté une Honda Civic en 1975.
Ouais.
OK? Et si tu regardes l'évolution, ben, y a des gens qui ont conduit des Civics toute leur vie. Qui ont renouvelé des Civics comme ça toute leur vie.
Mais il y a aussi des gens qui ont embarqué avec le voyage Civic dans les années 90, par exemple.
Oui, 90,
ouais, voilà. Même jusqu'au début des années 2000.
Mais je te dirais qu'à partir d'il y a peut-être 15 ans, on voyait la clientèle de la Civic vieillir un peu plus.
Oui. Alors que là, on veut reconquérir les jeunes. Là.
Mais tu sais, la Civic s'est embourgeoisée. La Civic est devenue une voiture.
C'est rendu cher aussi. Là. On a parlé des prix il y a quelques semaines.
Moi, le prix d'une Civic, pour moi, même si on a coupé les versions de base, pour moi, c'est pas un irritant parce que ce sont toujours des voitures qui se revendent bien, qui ont une bonne valeur, des coûts de possession à long terme qui sont inférieurs à la moyenne. Donc, j'ai pas de problème avec le... Tu sais, je veux dire, on a fait du gros tapage avec ça, comme quoi la Civic de base coûtait 25 000 $ cette année. OK, je suis d'accord, mais c'est juste parce qu'on vend plus de versions en boîte manuelle. Mm-hmm. Mais il en demeure pas moins que si tu achètes une Civic à 25 000 $ cette année versus une Hyundai Elantra à 25 000 $ ben, tu risques d'avoir...
T'en as plus pour ton argent, puis dans 4 ans ou dans 10 ans...
T'en as plus pour ton argent, mais je veux dire, ton coût de possession à long terme
dans 4 ans, tu vas la revendre plus cher que l'Elantra, puis dans 10 ans aussi, tu vas la revendre plus cher que...
À chaque
étape de sa vie, elle va mieux conserver sa valeur.
C'est peut-être un peu moins vrai que c'était à une certaine époque, parce que la concurrence a rattrapé la Honda, et je trouve qu'Honda s'assoit sur ses lauriers depuis plusieurs années. Puis j'espère qu'avec cette nouvelle génération de la Civic-là, ben, premièrement, on va découvrir une voiture moins LED, là. On peut-tu faire un design que du bon sens?
C'est pas joué d'avance, là, qu'elle va être moins LED.
C'est pas joué d'avance, ça, c'est sûr.
Donc,
mais c'est la première génération de Civic à laquelle je me suis jamais habitué. Mm-hmm. Tu sais, moi, je me souviens, quand on a lancé la Civic en 2006, j'ai fait... Wow, c'est assez audacieux. Puis j'étais pas sûr au début, mais deux ans après, je la trouvais magnifique.
Ouais.
Puis à chaque fois qu'on a renouvelé une Civic, à chaque deux générations, on a complètement changé la direction en matière de design. Ouais. Ben j'étais comme pas certain, puis ça s'ajustait. Mais depuis 2016, j'ai jamais été capable de m'habituer à ce nouveau design-là que je trouve toujours aussi laid aujourd'hui.
Je peux pas te dire qu'elle est belle.
Et que ce soit le hatchback, la berline, la tipper,
Denis... Le coupé, ça passait, franchement.
Non, c'est ça. Que la tipper, c'est effrayant. Tu sais, je veux dire, bon, le coupé, oui.
Ça passe.
Toutes choses étant relatives. Puis tu vois, on l'a éliminé parce qu'il n'y a plus de marché.
Voilà.
Fait que
tout ça pour dire, mardi 17 novembre, on va voir un premier aperçu. Et d'ici là, tu peux télécharger la plateforme Twitch pour
assister. Comment on fait ça, télécharger?
Je te montrerai ça un peu plus tard. Antoine.
Bon, véhicule de la semaine, on change de catégorie un peu.
Ouais.
Germain, t'as conduit le GMC Acadia.
Oui, exactement. GMC Acadia dans sa version AT4. Hein, on sait que cette sous-marque-là de GMC vend énormément.
Ouais.
Dans le cas du GMC Acadia, c'est peut-être un peu moins concret que pour un Canyon, par exemple. Donc, grosso modo, on a des jantes noires, des pneus peut-être un petit peu plus agressifs, un intérieur avec des surpiqûres orange. Oh, donc,
ouais.
C'est plus un ensemble d'apparences, je te dirais.
Mais je suis curieux de t'entendre au niveau des suspensions.
Ben, j'ai trouvé que c'était relativement bruyant comme véhicule.
À cause des pneumatiques.
À cause des pneumatiques, assurément. Mais suspension, j'ai pas trouvé que c'était moins confortable là, qu'une version ordinaire.
Parce que
là,
si tu prends un Sierra AT4, tu te fais brasser à la cage, drôlement plus qu'avec une version régulière.
Là, on n'est pas là. Ça m'a pas choqué. Puis bon, j'ai quand même parcouru quelques centaines de kilomètres avec
beau
le
look,
véhicule.
Quand même.
Ben voilà. Donc, c'est un look qui est intéressant. C'est pour ça que je parlais plus d'un ensemble d'apparence plutôt que d'une version qui est capable là, d'aller dans le bois bien creux. Là. Mais non, en termes de suspension, ça peut convenir totalement au quotidien. Je regardais l'échelle de prix hein, quand même parce que...
C'est en regardant l'échelle de prix qu'on comprend pourquoi ça se vend pas.
Ben voilà, parce qu'on est à 50 000 $ et ben, à ce moment-là, on a une version avec des sièges en tissu. On n'a pas de volant chauffant. Bon, c'est un peu...
Puis on s'entend qu'à ce prix-là, ben t'as un Honda Passport tout équipé, là.
Ben voilà, donc c'est un peu embêtant. Un petit mot sur la consommation, 12,6 litres au 100 enregistré.
Avec le V6,
3,6 litres,
ouais.
qui franchement fait bien le travail. Il y a d'autres moteurs qui sont offerts, 4 cylindres turbo. J'ai pas eu la chance de le conduire dans l'Acadia, mais il y a aussi un 4 cylindres 2,5 litres.
Ça, je comprends même pas qu'on le garde encore.
J'ai pas conduit non plus d'Acadia avec le 2,5, mais quand je regarde la fiche technique, ça n'a aucun bon sens d'offrir ce moteur-là. Donc, franchement, avoir à choisir un Acadia, ce serait le 3,6.
Le 2,5, c'est le moteur qu'on devrait mettre d'emblée, si tu veux mon avis, dans un terrain.
Oui.
Parce qu'à 180 quelques chevaux, ce 2,5-là, atmosphérique, simple et efficace, ferait le travail bien plus qu'un 1,5 litre turbo dans le terrain que personne n'achète, soit dit en passant, parce que la majorité des terrains qui sont vendus, c'est avec le 2 litres turbo. Mais pourquoi ne pas offrir ce 2,5-là dans le terrain plutôt que dans l'Acadia, où il n'y a pas sa place et que personne n'achète de toute façon? Ça, c'est une belle énigme.
Véhicule GM aussi de ton côté, Cadillac Escalade, véhicule complètement renouvelé, très, 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 très attendu.
Donc, dans sa version sport, il y a 5 déclinaisons de l'Escalade. Tu as Luxury, Premium Luxury, Premium Luxury Platinum, Sport et Sport Platinum.
Wow!
Alors, c'est vraiment... Il y a 5 gammes. Mais là, évidemment, c'est vrai autant pour la version à empattement régulier que la version à empattement allongé, la ESV. Beaucoup plus spacieux, beaucoup mieux insonorisé. On a resserré les boulons partout. Qualité de fabrication exceptionnelle. Il faut vraiment se pencher sous le véhicule pour essayer de trouver des plastiques un peu plus bon marché. Il y en a encore à des endroits, mais disons que c'est... On a travaillé très, très fort. Les sièges, c'est magnifique. Et c'est surtout la planche de bord avec cet écran de 36 pouces de large.
Ouais, on est en 2021, puis ça paraît...
Ah, c'est exceptionnel. Moi, je peux te dire que le comportement routier de ce véhicule-là est super impressionnant. Bon, C'est 127 000 $ le véhicule d'essai que j'avais. Il manque encore des options.
Ouais.
Mais franchement, c'est un camion qui va connaître un succès garanti. C'est du gros argent sale pour General Motors.
Ouais.
C'est vraiment payant de vendre un produit comme celui-là. Les écrans à l'arrière, l'écran à l'avant, le système audio, 36 haut-parleurs.
Ça fait beaucoup.
Ça
là.
Sonne, c'est incroyable. Ouais. Alors, Fiston s'est installé à bord et s'amusait à grimper le volume puis à chercher des postes où ça, comme il dit, des postes qui bûchent, là.
Oui,
il cherchait des postes sur Radio XM pour écouter la qualité sonore. Puis évidemment, ben, tu sais, c'est un camion qui...
Zéro serait... de combien de pouces? 22?
Dans ce cas-là, c'est 22 pouces, ouais, avec une option de 4165 $ juste pour les roues. Mais de série,
d'ailleurs,
t'as du 22 pouces.
J'ai vu nos collègues d'un site américain qui nous ont... qui ont fait un petit texte là, sur le Cadillac Escalade. Et ces roues semblent tellement précieuses que l'Escalade est livrée sur des grosses jantes noires.
Non, ça, je ne sais pas.
Je te le confirme. Donc, ces roues-là semblent très précieuses pour Cadillac et on ne voudrait pas qu'ils s'endommagent dans le transport. Donc, c'est des grosses roues d'acier noir.
Ah, ben oui, mais les camions sur le 22 pouces sont livrés sur des jantes d'acier noir comme ça. Des roues qui ne sont pas légales pour la route, soit dit en passant.
Et là le chroniqueur de ce site américain-là lançait à la blague une pétition pour que ces roues-là soient offertes parce que ça donne quand même un look en bon français un peu badass.
Ben, je nommerai pas personne, mais moi, je connais des gens qui ont pris ces roues-là, ouais, qui sont illégales sur la route et qui les ont mis sur des véhicules vintage et ça donne un sacré look.
Fait que ça, c'est...
Mais ce sont des roues qui ne sont pas officiellement balancées,
ouais,
donc c'est pas jugé
pas
sécuritaire.
Bonne idée,
enfin, bref.
Mais pour le look, on est là.
Mais l'Escalade, c'est un produit, tu sais, je veux dire, on s'entend là, 6,2 litres, ouais, 420 chevaux. Tu peux avoir l'option du moteur diesel no charge, donc c'est un ou l'autre, c'est le même prix.
Alors que ce n'est pas le cas chez Chevrolet, par exemple.
J'aurais aimé pouvoir essayer la technologie Super Cruise, mais le véhicule que j'ai conduit, c'était un véhicule de pré-fabrication, donc qui n'était pas équipé du Super Cruise. À cause de la COVID, il y a eu des délais de fabrication du système, donc j'aurai la chance de réessayer ça un peu plus tard. Mais vraiment une sacrée belle machine. Et à l'opposé, j'ai aussi conduit le Tesla Model Y.
Un petit peu moins impressionnant.
Je vais vous en reparler un peu plus tard parce que ça faisait partie de ma chronique dont on parle en fin d'émission. Mais autant c'est un véhicule qui m'a impressionné pour sa technologie, pour l'innovation, pour son système d'exploitation qui est vraiment génial. L'autonomie, il n'y a rien pour arriver avec ça. Ben c'est plus de 500
km. Et on sait que ça va se vendre et que ça se vend comme des petits pains chauds.
Oui, sauf qu'il y a des limites à Rive du Monde. Puis je te jure, là, je compte sur les doigts de ma main les véhicules que j'ai conduits en carrière qui étaient aussi mal assemblés que ça. En fait, il faudrait que j'aille deux doigts sur une main.
Ah oui.
C'est vraiment, là...
C'était peurant, là.
Ce véhicule-là, puis un Pontiac G6 décapotable, c'est pas mal au sommet des pires véhicules.
Les mêmes standards de construction.
Ah, c'est épouvantable, la qualité de fabrication de ça. Et ça me laisse croire que ça va très, très mal vieillir, mais je vous en reparle un petit peu plus tard.